célébration du sixième dimanche après Pâques, dimanche de l'aveugle né. Christ ressuscité de mort,
passe d'abord il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ ressuscité de mort, à la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, Thank you.
Béni Père, la Sainte Enfant.
Siècle des siècles.
Amen.
des Actes des Apôtres.
Soyons attentifs.
En ces jours-là, les apôtres se rendaient à la prière lorsque vint à leur rencontre une jeune servante douée d'un esprit divinateur et qui, par ses oracles, procurait à ses maîtres un grand profit. S'étant mise à la suite de Paul et de Silas, elle ne cessait de crier « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut qui nous annoncent une voie de salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de la quitter. » Et l'esprit sortit dès le même instant. Alors ses maîtres, voyant disparaître leur espérance de profit, s'en prirent à Paul et Silas, les menèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent au commandant. Ces gens-là, dirent-ils, sèment le trouble dans notre cité. Ce sont des Juifs et ils proposent des mœurs qu'il ne nous est permis d'accepter ni de suivre à nous les Romains. Alors la foule s'ameuta contre eux. Les commandants leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent de les fustiger. Quand ils eurent reçu de nombreux coups, ils les firent jeter en prison et recommandèrent au geôlier de les garder avec soin. Celui-ci vit l'ordre reçu, les jeta dans le cachot le plus sûr et leur mit les entraves aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Soudain se produisit un grand tremblement de terre, dont la violence ébranla les fondements de la prison, au point que toutes les portes s'ouvrirent et que les liens de tous les prisonniers se trouvèrent détachés. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive et il allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul, à grand cri, l'interpella et lui dit « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Ayant demandé de la lumière, le geôlier accourut et, tout tremblant, se jeta au pied de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda « Mes seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les prit avec lui. Il lava leurs plaies, puis aussitôt, il se fit baptiser, lui et les siens. Après quoi, il les fit monter dans sa maison pour y dresser une table et se réjouir avec tous les siens d'avoir cru en Dieu.
Et à toi qui as cru.
Attendez.
péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né. Jésus répondit, ni lui ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. L'aveugle s'en alla, se lava et il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier? Les uns disaient, c'est lui, les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Et ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, celui qu'on appelle Jésus a fait le bout, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Il lui dit, où est-il? Il répondit, je ne sais. On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils? Ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme répondit, c'est un prophète. Cependant, les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Avant d'avoir convoqué ses parents, il leur demandait, « Cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il y voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux? Nous n'en savons rien. » Interrogez-le, il est assez grand pour vous expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi? Ils l'accablèrent d'injures, disant, toi, tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement la chose étonnante que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais
que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là il l'exauce. Jamais on ne ouï dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « De naissance, tu n'es que péché, et tu nous fais la leçon. » Et ils le chassèrent au-dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Le rencontrant, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. »
Ce passage de l'Évangile nous place dans une articulation fondamentale. Nous voyons que des disciples présentent à Jésus un aveugle de naissance et posent la question, est-ce que c'est lui ou ses parents qui sont la cause de cette altération de la nature, de cet handicap? Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Cette articulation nous place devant le fait que nous pouvons être altérés dans notre nature, nous pouvons vivre un handicap, nous pouvons rencontrer des dysfonctionnements par les maladies, par exemple, et que ces dysfonctionnements ne sont pas déterminants, puisque Jésus va procéder à la guérison et qu'il y a ce qui vient de la nature, ce qui est dans l'ordre de la nature et ce qui est dans l'ordre de la grâce divine. Les Juifs place cette réalité sous l'égide de ce qu'ils appellent la réparation, le tikkun olam, à savoir que Dieu vient réparer la création. Mais cette réparation, ça veut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement. On a l'habitude d'attribuer ce dysfonctionnement à ce qu'on appelle le péché de l'être humain. C'est mystérieux, cette altération. Pourquoi y a-t-il des dysfonctionnements dans la nature? Pourquoi y a-t-il la mort? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui vient altérer ou la vie des humains, ou la vie des animaux, ou la vie de la nature tout entière? En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que Jésus nous montre soit la possibilité de nous laisser totalement conditionner, voire même empêcher d'atteindre à une certaine évolution, une transformation intérieure, soit la possibilité qu'il y ait, par l'altération, l'ouverture sur une autre dimension. Ça veut dire que premièrement, la maladie n'est pas vraiment une fatalité, le handicap n'est pas vraiment une fatalité. Les disciples posent la question du transgénérationnel, le Christ leur répond que ce n'est pas l'élément déterminant. C'est un facteur, bien sûr, ce n'est pas que lui ou ses parents, il n'exclut pas le fait, mais il dit c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Ce que fait Jésus, il ne fait pas un acte de réparation. Il libère les potentialités de vie dans la nature. Il libère les potentialités du vivant dans la nature. Autrement dit, une personne handicapée n'est pas une personne à qui il manque quelque chose pour être une personne à part entière, c'est une personne où les forces de vie ne peuvent pas s'exprimer pleinement. Une personne handicapée n'est pas une personne qui est privée des capacités, mais privée des possibilités d'exprimer ses capacités. On le voit aussi dans l'altération psychique, où nous portons en nous une liberté, mais dans la pathologie psychologique, la personne n'est pas en mesure d'exprimer ses capacités de liberté. Non pas qu'elle ne soit pas libre dans le profond de son être, mais elle n'est pas dans la capacité d'exprimer ses libertés. C'est intéressant. Donc il y a une altération dans l'expression des capacités. Donc ça veut dire qu'une personne handicapée est une personne à part entière dont les fonctions du cerveau ou de l'organisme ne permettent pas l'expression de toutes ses potentialités. Or Jésus vient ici redonner la possibilité de l'expression de ses potentialités. Et fait intéressant, il va nous montrer par son geste combien la nature est réparatrice, puisque c'est en crachant par terre, en mélangeant sa salive avec la terre, en l'apposant sur les yeux de l'aveugle, en l'envoyant à la piscine de Siloé, en lui demandant de se laver les yeux, et c'est après qu'il se soit lavé les yeux qu'il voit. Il n'a pas vu immédiatement. Ça veut dire d'abord qu'il y a un cheminement, il doit entrer dans un processus lui-même, donc il participe de sa propre guérison. Et d'autre part, nous voyons que c'est par la terre et la salive, puis l'eau, qu'il va y avoir la guérison. Nous avons ici l'expression pleine et entière de ce que signifie le sacrement. Le sacrement passe par des éléments naturels. Sacrement de l'huile d'onction, c'est bien de l'huile. Sacrement de l'eau du baptême, c'est bien de l'eau. Sacrement de l'Eucharistie, c'est bien du pain et du vin. Nous sommes bien en présence d'éléments naturels, mais qui ont des potentialités divines. Et donc les sacrements sont les lieux de pleine expression des potentialités divines au travers des réalités matérielles. Ce qui nous renvoie sur le fait que la nature peut nous guérir en tant qu'elle porte tout le rayonnement des énergies divines et de la grâce divine. Et Jésus propose à l'aveugle et aux disciples de se tourner vers cette grâce sanctifiante, vers cette grâce guérissante, plutôt que de rester sur la conception matérialiste du monde. Il y a ici un bascule sur le fait qu'on pourrait penser que nous sommes enfermés dans les conséquences du passé. Bien sûr qu'une maladie est l'aboutissement d'un processus. Le handicap peut être aussi l'aboutissement du processus. Selon la nature, on pourrait se dire que ce processus est irréversible, mais il l'est par le fait de s'ouvrir à la grâce qui agit au sein de la nature. Et nous sommes ainsi passés d'un rapport idolâtre à la matière à un rapport sacramentel à la matière. C'est tout le mystère eucharistique qui est là et le mystère de l'Église. On comprend bien le chemin spirituel en tant que processus de conscience, en tant que regard sur nous-mêmes, en tant que évolution et possibilité de meilleure compréhension du monde, de soi-même et de la nature. Mais il y a un fait dans l'Église qu'on retrouve nulle part dans d'autres spiritualités, c'est le fait sacramentel. mystérieux pour nous dire que Dieu est présent dans la nature. Dieu est présent et agissant dans la nature, et que ce n'est pas la nature qui nous guérit, mais c'est Dieu dans la nature qui nous guérit. Et ainsi, nous entrons dans la présence mystérieuse de Dieu au sein de la nature, et nous pouvons dire que le vivant, l'ensemble du vivant, sont autant d'expressions, de modes de présence de Dieu dans la nature. Aujourd'hui, nous assistons à la destruction du vivant. Vous savez que 80% des vertébrés ont disparu depuis 30 ans. 80% des vertébrés, 80% des oiseaux aussi. Nous avons perdu plus de 80% des espèces de poissons dans la mer. Les chiffres donnent le tournis tellement nous sommes face à la capacité de destruction de l'être humain. Eh bien, cette capacité de destruction, elle a une conséquence, c'est l'appauvrissement de la pharmacopée, parce que ces espèces portent en eux des informations nécessaires à notre santé, et si ces porteurs d'informations disparaissent, ces informations ne sont plus accessibles directement, ou en tout cas assimilables par le corps. Et en fait, par la destruction du vivant, nous limitons les modes de présence de Dieu dans le monde. Il y a un vecteur écologique, un vecteur sanitaire, mais aussi une dimension spirituelle, et les trois sont liés. Donc nous vivons un moment où il ne s'agit pas simplement de limiter ce désastre, mais il s'agit ici, comme il est proposé aujourd'hui par Jésus, d'opérer un bascule total, de ne plus s'enfermer dans les catégories de la nature, les déterminants de la nature, mais de s'ouvrir à la présence de Dieu, présence qui n'est pas une présence transcendante, inaccessible, mais une présence immanente à la nature elle-même, c'est-à-dire Dieu est présent dans la nature, Dieu est présent dans le cosmos, et il s'agit de, si je puis dire, libérer Dieu présent dans ce cosmos, de le libérer dans notre cœur, et de libérer par cela les potentialités vivantes, sacramentelles, qui sont en nous et dans le cosmos. L'enjeu écologique, il est spirituel. Nous sommes dans un temps d'articulation particulier. L'humanité est à un carrefour. Nous avons à vivre d'abord le sérieux de ce qui se présente à nous aujourd'hui, et d'autre part, l'humanité est appelée à un bascule total dans son regard, dans sa vision, dans sa manière de regarder le cosmos, de regarder l'autre, et enfin de voir chaque autre comme le lieu sacramentel, le lieu d'une présence réelle, et même chaque brin d'herbe comme le lieu d'une présence réelle, chaque animal comme le lieu d'une présence réelle, et ainsi de voir que Dieu nous fait vivre par la vie. J'aime beaucoup cette parole de saint Irénée de Lyon au IIe siècle, qu'il disait « On ne peut pas vivre sans la vie ». C'est d'une telle évidence, on ne peut pas vivre sans la vie. Comment on peut penser vivre en tuant la vie ? Nous sommes à un point d'aberration impressionnant. Et on peut penser, en regardant la nature autour de nous, ici à Sainte-Croix, que nous ne sommes pas touchés par ces phénomènes. C'est clair qu'au niveau local, au niveau visuel, rien ne fait pressentir cette destruction, mais c'est bien cela qui est pernicieux, c'est qu'on n'a pas l'impression que la nature est altérée, mais quand on regarde les constats scientifiques, on est littéralement atterrés par ce qui se passe. Donc la grande question, c'est la survie de l'humanité. La grande question, c'est comment vont vivre nos enfants dans un monde dégradé. Il ne suffira pas que nous puissions simplement être attentifs et réduire notre pollution. Il convient que nous posions un regard sur la nature pour reconnaître enfin la sacralité de la nature. Parce qu'on ne se comporte pas de la même manière avec une dimension sacrée qu'avec une dimension profane. Nous avons cru que le profane nous environnait. En fait, le sacré transpire de toutes les pores du vivant. Tout est sacré, et si tout est sacré, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui est sacré. Et je crois que le désenchantement du monde est une désacralisation du monde et que nous avons besoin de retrouver la dimension sacramentelle, la dimension sacrée de l'existence. Et Dieu vient nous guérir, comme il guérit l'aveugle né, par la nature elle-même, qui est l'infirmière de Dieu. Et nous avons à prendre soin de la nature, puisque nous sommes coexistants à la nature, et donc ce qui arrive à la nature nous arrive à nous, et nous avons à entrer dans cette conscience du vivant, et par là, de retrouver la joie de la célébration de Dieu en toutes choses, reconnaître que Dieu est là comme possibilité de guérison et possibilité d'une danse avec la vie et donc de joie. Et c'est là que se situe la résurrection. La résurrection, c'est la présence de Dieu en toutes choses. Que le Seigneur nous donne de vivre cette présence en toutes choses, d'être méticuleux avec le vivant, de respecter profondément le vivant pour que vive la vie et que nous vivions aussi pour sa plus grande gloire, Père, Fils, Saint-Esprit.
Lisons tous le tout à la femme de notre esprit, lisons. Prions et toutes nous aient pitié de nous.
miséricorde descende sur vous par sa grâce et son amour pour les hommes, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Christ est ressuscité.
Amen.
Bon dimanche à vous.